100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Des Polonais ruinés par des prêts en France-Suisse. Le droit à l'avortement malmené dans plusieurs pays d'Europe et le bio en Italie. Voici quelques-uns des sujets qui font la une d'Accent d'Europe aujourd'hui. Ils sont ruinés. Il y a quelques années, les banques polonaises leur ont fait miroiter un prêt immobilier pas cher, indexé sur le franc suisse. Mais depuis que la monnaie helvète a été réévaluée, ces 700 000 Polonais ont vu leur traite grimper d'autant. Aujourd'hui, ils demandent aux établissements financiers de revoir leurs copies et ils se mobilisent. C'est le reportage à Varsovie de Maja Szymanowska.
Bonjour, entrez, voici mon super bel appartement. 80 mètres carrés, une belle vue, un très bon quartier, un immeuble ancien. On m'a persuadé à l'époque que la meilleure solution pour moi, c'était un crédit en francs suisses. Tout semblait parfait, c'était le meilleur crédit sur le marché avec un taux avantageux. Tout devait aller pour le mieux.
Mais Ania Bartin, qui élève seule sa fille de 7 ans, a vite déchanté. Surtout depuis le début de l'année et l'envolée du cours de la monnaie helvétique. Il y a 7 ans, quand elle a contracté son crédit, un franc suisse s'est changé contre 2 zloty. Aujourd'hui, il en vaut le double.
Revendre, ce serait vraiment pour moi la dernière des solutions, quand je n'aurai plus le choix. Aujourd'hui, la majorité de mon salaire sert à payer les traites et les factures de cet appartement.
Ania n'est pas la seule dans ce cas. Ils sont 700 000, d'après la commission de surveillance bancaire, à avoir contracté entre 2003 et 2008 des crédits immobiliers en zloty mais indexés sur le cours du franc suisse. La majorité aujourd'hui n'arrive plus à payer, leurs traites ayant doublé en 4 ans. La valeur de leur crédit dépasse pour beaucoup la valeur du bien immobilier acquis. Alors, ils s'organisent et profitent de cette année électorale pour faire réagir le gouvernement. Ce défilé organisé à Varsovie fin février a initié un grand débat sur ces crédits proposés dans une autre monnaie que la monnaie nationale. L'un des organisateurs du mouvement, Andrzej Zalewski, conteste le bien fondé de ces prêts. Selon lui, les banques ont abusé de la confiance de leurs clients et ont poussé à prendre de tels crédits sans expliquer les risques. Au moment de la montée du cours du franc suisse, Andrzej Zalewski n'a pas eu de chance.
J'ai eu au même moment de graves soucis de santé. J'ai perdu mon travail dans la foulée et je ne pouvais plus payer les traites qui ont doublé. J'ai demandé à la banque une suspension de paiement durant 6 mois, une possibilité qui est précisée par mon contrat, mais en guise de réponse, j'ai reçu une mise en demeure. La banque n'a donné aucune autre suite à ma demande de moratoire. Il m'a demandé de payer 650 000 zloty, même si mon crédit initial se montait à 300 000, dont j'ai payé plus de la moitié. On me demandait de payer une somme 5 fois supérieure à celle que je devais encore.
Andrzej décide alors d'arrêter de payer et intente un procès à sa banque. Il se met en relation avec l'association Pro Futuris, née à Cracovie, qui défend les intérêts des détenteurs de crédits en francs suisses. Toutes les semaines, le samedi, entouré d'avocats et de profs d'économie, il se retrouve dans ce café de Varsovie pour peaufiner un plan de bataille. Cette année 2015 est une année électorale, avec la présidentielle en mai et les législatives à l'automne. Andrzej pense qu'il sera plus aisé de faire pression sur le gouvernement pour qu'il s'occupe de ce sujet.
On ne demande aucune aide à l'État. En tant que citoyens, nous sommes même contre, car ce serait une aide apportée aux banques, pas à leurs débiteurs. Nous demandons à pouvoir convertir nos crédits en zloty le jour de la signature de notre contrat avec la banque. Si nous devons 100 zloty et les intérêts, nous paierons, mais pas plus. C'est tout.
À l'époque, les crédits étaient faciles. Les banques, mais aussi les médias, ne tarissaient pas d'éloges et poussaient à la dépense. Le crédit en francs suisses était réputé moins cher, plus sûr et surtout facile à obtenir. C'est l'un des arguments que Daniel Pavlouchuk, avocat, utilise pour rendre caduques les contrats passés entre les débiteurs et les banques.
Les banques, entre 2006 et 2008, proposaient des prêts immobiliers indexés sur le cours du franc suisse et ne proposaient aucune autre alternative. Le choix laissé aux clients était fictif. Le crédit en zloty était 2 fois plus cher que le crédit indexé sur le franc suisse.
Le cabinet d'avocats de Daniel Pavlouchuk, PZ Capital, défend aujourd'hui une centaines de clients et traque les irrégularités dans les contrats pour mieux les contester. Daniel Pavlouchuk est fier de ses premiers petits succès. Les tribunaux ont accordé la suspension des paiements le temps que dure la procédure judiciaire. Mais la bataille s'annonce difficile. Aucun client n'a encore gagné contre une banque. La mobilisation des Frankovic, comme on les appelle ici, ne faiblit pas. Ils annoncent une autre grande manifestation pour le 24 avril prochain.
Favorise-t-on l'agriculture biologique en Europe ? Les consommateurs sont de plus en plus nombreux, mais selon les professionnels, les aides européennes ne les soutiennent qu'à la marge. C'est en tout cas l'avis d'un agriculteur bio italien dans un pays leader dans le domaine, avec 1 million d'hectares cultivés sans pesticides et 53 000 employés. Le vin, l'huile d'olive, les céréales sont les moteurs de cette réussite. En Toscane, à Rocca d'Orcia, Mathilde Villain est allée visiter une ferme modèle.
Au sud de la Toscane, le Val d'Orcia est déjà en soi un coin de paradis. Perché sur une colline, le Podere Forte, exploitation agricole biologique modèle, surplombe la vallée. Presque un jardin d'Éden, règne de la perfection tel que l'avait rêvé Pasquale Forte, un industriel du nord de l'Italie. À la fin des années 90, ce Calabrais, fils d'agriculteur, décidait de renouer avec ses racines paysannes et de planter les siennes ici. Un choix très raisonné, Giovanni Mazzoni, directeur commercial du Podere Forte.
Il a fait de la durabilité son cheval de bataille. Pour nous, la terre n'est pas un cadeau de nos parents que nous avons juste à exploiter. C'est plutôt un prêt que nous nous devons de rendre à notre descendance dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. La durabilité, cela veut dire rendre à la terre ce qu'elle donne par les fruits. L'énergie, c'est le respect du sol. Ici, on n'utilise que des composts bio. Et surtout, cela signifie augmenter la vie du sol, parce que c'est ça le vrai trésor de la terre. Et si on travaille toujours comme ça, on aura toujours des terrains de meilleure qualité et des fruits de meilleure qualité.
Pour son idéal de ferme parfaite, Pasquale Forte s'est inspiré du modèle de la Cortes Romana. Une ferme où tout est complémentaire, de la forêt aux animaux, de la vigne aux oliveraies et où tout est rigoureusement biologique.
Chaque élément aide un peu l'autre ici. Nous avons par exemple 22 vaches, mais nous ne sommes pas des producteurs de viande ni de lait. Mais nous devons les avoir parce qu'elles nous permettent de produire et d'alimenter nos propres composts, qui sont une source d'énergie que nous rendons à la terre. C'est le concept de l'intégration et de la durabilité. C'est ça, la beauté.
Derrière une porte coulissante, voilà la caverne d'Ali Baba, la cave du Podere Forte. Les raisins y sont pressés avec autant de délicatesse qu'ils ont été cueillis et cultivés. Résultat, des vins de très grande qualité, comme le Petrucci ou le Guardavigna, salués par les plus grands sommeliers du monde entier. Le Podere Forte est donc un exemple du potentiel d'excellence de l'Italie en matière d'agriculture biologique. Leader sur le marché européen, en partie grâce au vin, l'Italie aurait pu imposer un modèle au cours des négociations sur la nouvelle PAC. Une occasion manquée, regrette Vincenzo Vizioli, président de l'AIAB, l'Association italienne pour l'agriculture biologique.
Les politiques n'ont pas misé sur l'agriculture biologique. Il manque surtout un objectif chiffré. Nous pensons qu'en Italie, l'objectif de 20% des terres agricoles biologiques serait tout à fait réalisable dans 5 ans. Nous voyons l'agriculture biologique comme un élément du développement rural, et si elle avait été plus soutenue, elle aurait pu devenir une priorité absolue.
Certes, le fameux greening contenu dans la nouvelle PAC constitue une avancée. 30% des aides versées aux agriculteurs européens doivent être conditionnés à des mesures de verdissement, mais selon Vincenzo Vizioli, ce n'est pas suffisant.
Le biologique, encore une fois, est perçu comme un secteur à financer, mais on ne reconnaît pas l'agriculture biologique à sa juste valeur. Elle n'est pas seulement bonne pour la santé et pour l'environnement, mais dans le contexte du changement climatique, il faut rappeler que l'agriculture biologique consomme plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en émet, et c'est une arme réelle des territoires pour répondre à ce défi.
À Rocca d'Orcia, la nature frémit, le printemps est là. Dans les vignes du Podere Forte, les ouvriers préparent patiemment chaque plant, un par un, pour l'arrivée des beaux jours. Giovanni Mazzoni.
On nous décrit souvent comme des cultivateurs héroïques, parce que ça demande beaucoup de travail, plus d'énergie, cela a un coût économique aussi. Mais avec le temps, cela donne une valeur ajoutée au produit et surtout, la terre reste vivante. Ici, nous n'aurons jamais une vigne improductive ou éteinte. Non, ici, la vie se régénère et il ne faut pas seulement la régénérer, il faut aussi l'augmenter. C'est la responsabilité de cette exploitation. Nous avons le devoir de léguer aux générations futures un terrain, une culture, un futur meilleur que celui que nous avons reçu. C'est notre responsabilité.
Au pied du Podere Forte, des champs de blé que la caresse du vent fera danser au cœur de l'été. Le paysage du Val d'Orcia, redessiné à la Renaissance selon les idéaux du bon gouvernement, est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Un reportage réalisé avec le soutien de l'Union européenne. Ans après sa légalisation, le débat sur l'encadrement de l'interruption volontaire de grossesse est de nouveau relancé en France avec la suppression, dans le cadre de la loi santé, de la semaine de réflexion obligatoire pour les femmes ayant décidé d'avorter. Ailleurs en Europe, si seulement 4 pays interdisent encore l'avortement, ce droit fondamental des femmes est encore fragile et parfois très encadré, comme nous l'explique Daniel Vigneron, directeur du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors expliquez-nous pourquoi avoir prévu en France ce délai de réflexion incompressible pour les femmes ayant décidé d'interrompre volontairement leur grossesse.
Vous faites bien, Frédéric, de rappeler que l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Une femme a le droit, depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, de décider d'avorter si c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle a décidé. Mais il y a 40 ans, Simone Veil a dû se battre seule face à une majorité d'élus, députés et même ministres qui, dans son propre camp, étaient fondamentalement hostiles à ce libre arbitre. Elle avait donc été alors contrainte à des compromis. Ce délai de réflexion de 7 jours en était un, même si Simone Veil l'avait officiellement justifié en expliquant qu'il permettrait de faire prendre conscience aux femmes que l'IVG était une décision grave, ne pouvant être prise sans en avoir pesé les conséquences. Donc, on demande aux femmes d'attendre, alors que, par ailleurs, l'IVG en France ne peut être pratiquée au-delà de la 12e semaine de grossesse. C'est bien pourquoi, pour le planning familial, ce délai d'attente était inacceptable, car il insinue que les femmes agissent de manière irréfléchie.
Et y a-t-il encore des pays en Europe, Daniel, où l'IVG reste interdite ?
En Europe, Malte, l'Irlande, Chypre et la Pologne ne sont pas arrivés à surmonter les conservatismes politiques et religieux et continuent d'interdire l'IVG ou d'imposer des conditions drastiques pour pouvoir y recourir. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, le droit à l'avortement reste dans une majorité de pays illégal. À Malte, pays catholique extrêmement conservateur concernant l'évolution des mœurs et qui autorise le divorce depuis seulement 2 ans, l'IVG reste strictement interdit. En Irlande, là aussi, l'Église catholique freine des 4 fers. L'IVG est autorisée uniquement si la vie de la mère est en danger. Une grossesse à la suite d'un viol ne peut être légalement interrompue. Et en cas d'avortement illégal, les femmes ou le médecin encourent 14 ans de prison. Néanmoins, plusieurs affaires de décès ont conduit le gouvernement à assouplir quelque peu en 2013 la législation qui permet désormais l'IVG en cas de risque réel et substantiel pour la vie. Ce qui n'a pas empêché, en 2014, un refus d'IVG pour une femme victime d'un viol et ayant des tendances suicidaires. Enfin, à Chypre, la situation n'est guère meilleure pour les femmes, si ce n'est que l'IVG est autorisé pour des raisons de santé ou en cas de viol. C'est également le cas en Pologne, où l'avortement n'est permis que si la grossesse résulte, là aussi, d'un viol, ou en cas de malformation du fœtus.
Et puis, il y a l'Espagne, où le droit à l'avortement a été remis en cause.
Oui, en 2013, un projet de loi supprimant quasiment le droit à l'avortement a été approuvé par le Conseil des ministres. Mais finalement, face au tollé général et de nombreuses manifestations géantes, le gouvernement de Mariano Rajoy a fait marche arrière et les Espagnols peuvent toujours avorter jusqu'à la 14e semaine de leur grossesse.
Et y a-t-il d'autres pays où la question de l'IVG fait également débat ?
C'est le cas notamment en Belgique, où l'avortement est légal depuis 25 ans, jusqu'à 12 semaines de grossesse, comme en France. Mais malgré 20 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées annuellement en Belgique, de nombreux Belges ayant dépassé ce délai se rendent aux Pays-Bas, où les femmes peuvent avorter jusqu'à 22 semaines, comme d'ailleurs en Grande-Bretagne. De nombreux médecins belges, d'ailleurs, demandent une harmonisation de ces délais pour éviter à des femmes d'aller à l'étranger pour avorter. En France aussi, 4 000 femmes ayant dépassé le délai légal sont contraintes d'aller dans les pays où les délais sont plus longs. Mais certainement pas en Italie.
Et pourquoi pas l'Italie ?
L'IVG est légal en Italie, du moins à partir du moment où la stabilité mentale ou sociale de la femme est en jeu. Et le délai légal est de 90 jours, soit 6 jours de plus qu'en France. Mais le problème est que de nombreux médecins refusent de pratiquer les IVG en évoquant l'objection de conscience. La loi ne suffit donc pas. C'est ce qu'ont bien compris les mouvements anti-IVG rebaptisés pro-life, qui est un slogan évidemment beaucoup plus mobilisateur.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Il ne fait pas forcément bon être chanteur ou musicien en Bulgarie, un pays où le piratage musical est une seconde nature. Le rappeur Serafim en a pris son parti. Il se produit seul et tire ses revenus exclusivement d'Internet et des concerts. Mode d'emploi avec Damien Vodenicharov à Sofia.
Serafim est un nom bien connu en Bulgarie. À 30 ans, c'est un vétéran du hip-hop bulgare. Sa carrière, lancée il y a une décennie, a connu plusieurs succès. Son morceau le plus connu, Sofia de Janeiro, marie un rythme lourd et des paroles engagées. Sans maison de disques, Serafim produit tous ses albums en indépendant.
Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait seul, je l'ai construit moi-même. Personne ne m'a donné de l'argent, personne ne m'a aidé, personne ne m'a donné de tuyaux. Et j'en suis fier parce que je vois les jeunes artistes. Ils font un ou deux morceaux et ils disparaissent.
Et la carrière de Serafim continue. Il est en train d'enregistrer un single avec le groupe de Tupac, les Outlaws, et prépare son nouvel album. Des clips sont également au menu et tout ça avec zéro vente. En fait, l'industrie de la musique en Bulgarie a dû s'adapter. Le piratage est facile et très répandu. Acheter ne vient même pas à l'esprit des gens, explique Serafim.
Les Bulgares n'ont tout simplement pas l'idée d'acheter de la musique. Même les fans n'ont pas cette culture de l'achat. On ne passe pas mes clips à la télé non plus. Tout ce que je fais, je le mets sur Internet.
Depuis plusieurs années, Serafim cherche en fait à atteindre son public sur la toile. La mise en ligne de ses clips lui rapporte une petite somme qui lui permet de continuer à faire de la musique.
Je suis convaincu que mettre tous mes morceaux sur YouTube me rapporte beaucoup plus que des ventes très hypothétiques. J'ai autour de 200 000 vues par mois pour tous mes clips. Et cela me permet de toucher une espèce de salaire minimum tous les mois depuis 2 ou 3 ans.
Les artistes bulgares comptent également sur les concerts et la vente de billets pour pouvoir vivre de leur art. Au point que les singles et les clips sont surtout des outils de promotion des concerts.
Serafim, rappeur et bulgare. Accent d'Europe était produit aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr et sur Facebook. On se dit à demain.